Anne Garrig, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans quel contexte est né ce très bel ouvrage de pierre et d'encre, Chine au pays des marchands lettrés?
Alors, l'aventure a commencé en 2006, lorsque Wang Yan, qui est le fondateur de Sina.com, un des principaux portails chinois, et il est aujourd'hui chairman of the board, a invité un groupe de gens à visiter la région du Huizhou qui se trouve au pied des montagnes jaunes, toute une série de villages, notamment deux villages classés aussi du patrimoine mondial de l'UNESCO, Sidi Hongsun. Donc nous avons visité avec beaucoup de plaisir ces villages et au pied d'un bus, j'ai eu cette aspiration et j'ai proposé à Wang Yan pourquoi on ne ferait pas un livre, pourquoi je ne présenterais pas aux Français cette magnifique région, puisque l'idée derrière Wang Yan, derrière ce voyage, c'était d'essayer d'établir une sorte de synergie entre la France et la Chine pour développer une protection du patrimoine dite de ce nom et se servir au fond de cette région comme d'une zone pilote qui pourrait permettre de tirer vers le haut la protection du patrimoine en Chine. Voilà.
Alors c'est né d'un coup de cœur aussi.
Alors ça, c'était bien sûr né d'un coup de cœur, né d'un coup de foudre. Moi, je viens du Midi, je m'appelle Garrig, et j'adore, j'ai un petit village qui s'appelle Heus, près de Prades. Et quand je suis arrivée dans ces villages de pierre et d'encre, mais de pierre aussi, j'étais extrêmement sensible à cette architecture à la fois belle et très très bien intégrée dans le paysage. Et à cette... Alors, Wang Yan, qui a d'autres références, parle du Luberon chinois, mais moi, je préfère parler presque de la région du Z. En tout cas du sud, il y a quelque chose à la fois un peu méridional, c'est une architecture aussi qu'on dit vernaculaire, c'est-à-dire une architecture qui n'est pas impériale, qui est celle des maisons de marchands lettrés, je pense qu'on y reviendra. Et c'est très important parce que ça lui donne quelque chose de doux, d'accessible, de proche, et j'ai trouvé qu'il y avait là une grande proximité avec nos propres villages du sud. Et c'est peut-être ça qui m'a beaucoup touchée. J'ai senti qu'on pouvait, c'est une affaire de cœur, et qu'on pouvait faire aimer aussi la Chine aux Français à travers ça.
Alors, si on faisait un petit peu de géographie, où se situe exactement cette région du Huizhou?
Alors, cette région du Huizhou se trouve au sud de l'Anhui, qui est une province intérieure chinoise qui, si vous voulez, se trouve à peu près au niveau de Shanghai, mais un peu plus à l'ouest. C'est à 45 minutes en avion de Shanghai, ou 4 ou 5 heures en voiture. C'est à 2 heures d'avion de Pékin, donc c'est plus au sud. C'est au pied des Monts Jaunes. Les montagnes jaunes, que le photographe Marc Ribot a immortalisé notamment, ont beaucoup inspiré les peintres chinois, et qui ont les peintures à l'encre notamment, et c'est peut-être pour ça que ça s'appelle de pierre et d'encre aussi. Et ce sont ces montagnes un peu en pain de sucre, avec ces pins, avec des formes déchiquetées. Et les villages se trouvent à quelques, je dirais, moins d'une heure de ces montagnes. Alors, ces villages, aujourd'hui, dans l'ensemble, sont autour de la municipalité de Huangshan. Hein, Huangshan qui veut dire en fait mont jaune, Huang comme jaune, Shan comme montagne. Et il représente, le Huizhou, c'est l'ancien nom, si vous voulez, de cette région. Donc, dans l'ensemble, il se trouve dans l'Anhui. Il y en a un petit peu dans le Jiangxi aussi. Mais enfin, bon, pour les gens qui ne sont pas des spécialistes, il suffit de savoir que c'est à 45 minutes à l'ouest de Shanghai et au pied des montagnes jaunes.
C'est effectivement une bonne indication. Alors justement, qu'est-ce qu'un marchand lettré?
Alors un marchand lettré, au fond, c'est un marchand néo-confucéen. C'est un marchand, dans le sens de la région du Huizhou, c'est une région qui est faite de collines, qui est pas très loin des grandes capitales, mais qui en même temps était assez abritée. Et en même temps, c'est une région où la culture était difficile. Donc très tôt, dès la période, on va dire, dès le début des Ming, même un petit peu sous les Yuan, c'est-à-dire un petit peu avant 1300, on va dire, donc je me trompe pas, 14e siècle, c'est ça. Des gens assez pauvres sont partis vendre les produits, notamment... Le bois, nous sont allés vendre des marchandises. Et il y avait la rivière de la Tian qui permettait de partir vers Hangzhou, enfin les grands points de commerce de la Chine. Et donc, ce sont les marchands lettrés au départ, ce sont des gens qui sont partis vendre à travers toute la Chine des produits de leur région. Et probablement que si les marchands lettrés se sont développés là, c'est qu'il y avait à la fois un besoin, parce que c'était une région susceptible d'être inondée, qui ne permettait pas de nourrir, contrairement à d'autres régions, ses propres habitants, mais aussi parce que, comme c'était une région assez protégée, il y avait, depuis beaucoup plus longtemps, des gens d'ascendance parfois aristocratique ou des gens de grande culture qui s'étaient réfugiés là. Donc c'est ce mélange à la fois de grandes familles qui s'étaient réfugiées et en même temps de nécessité d'aller chercher de l'argent ailleurs pour nourrir sa famille qui a permis de faire naître ces dynasties de marchands. Ensuite, ces dynasties de marchands ont prospéré et ont développé, je dirais, toute une morale qui s'est beaucoup inspirée du néo-confucianisme. Il faut savoir que dans le système confucéen, le marchand n'est pas, si vous voulez, un des personnages les plus en bas de l'échelle. À la limite, le paysan, ça c'est dans la morale confucienne, le paysan, ben fortiori le mandarin, est bien, beaucoup plus en haut de l'échelle. Donc, ces marchands lettrés avaient un peu, je vais être un peu caricatural, mais comme nos bourgeois gentilshommes avaient besoin de respectabilité. C'est pour ça qu'ils ont toujours essayé aussi de devenir des mandarins. Hein, de s'allier aux mandarins. Donc ils ont développé, ils se sont enrichis et ensuite ils ont créé des alliances et ils ont développé des grandes dynasties, des grandes familles, des grands clans de marchands cultivés qui pouvaient devenir mandarins puis ensuite de mandarins redevenir marchands. Et voilà, c'est ce qui explique qu'on les appelle les marchands lettrés.
Est-ce qu'il y en avait dans toute la Chine ou uniquement dans cette région ?
Il y a eu des marchands lettrés dans d'autres régions, je pense à Pingyao, mais ce qu'on appelle les Huishang, c'était les marchands lettrés de cette région. Mais c'est quand même la principale région des marchands lettrés. Il y a même des proverbes qui disent qu'il n'y avait pas, de ville en Chine sans marchands lettrés du Huizhou. Donc c'est vraiment la principale. Parce que à la grande différence d'autres régions où il y a eu des marchands, dans la région du Huizhou, il y en a eu énormément. C'est-à-dire que il y a pas, c'est ce qui fait son charme aussi, si vous voulez vous rendre dans cette région en touriste, c'est qu'il n'y a pas simplement, je dirais, un ou deux villages magnifiques, il y en a des dizaines.
Alors, comment ces marchands ont bâti leur fortune ?
Alors, ils ont bâti leur fortune au départ, à travers le commerce de beaucoup de choses. Hein. Après, ils commerçaient énormément. Au départ, c'est des choses, des productions locales, que ce soit le bois, par exemple, le thé, par exemple, très important. Et puis, petit à petit, ils ont développé quelque chose de très particulier qui était le monopole du commerce du sel. Et ils ont aidé l'empereur, parce qu'ils se sont enrichis avec des produits au départ, donc comme je vous le disais, le bois qui pouvait transporter par rivière jusqu'aux grandes métropoles. Et puis, quand ils se sont enrichis, ils ont pu aider l'empereur. Et en échange de cette aide, eh bien, l'empereur leur a concédé des monopoles sur le sel, sur le commerce du sel. Et c'est comme ça que ces dynasties se sont encore plus enrichies. L'apogée, en gros, des marchands lettrés, c'est, on va dire, c'est Ming Qing, mais jusque 1850. En gros, on va partir à peu près entre 1450 et 1500, c'est-à-dire Mi Ming, jusqu'à Mi Qing.
Justement, c'est la fin du monopole du sel qui a signé leur déclin ?
Tout à fait, c'est la fin du monopole du sel qui a signé leur déclin. Et puis c'est aussi le désordre, l'invasion, la révolte des Taiping qui a eu des conséquences dramatiques avec un front extrêmement violent entre les révoltés du Taiping et les troupes impériales qui a eu lieu d'ailleurs dans ces régions-là. Donc il y a eu énormément de morts à cette occasion. Et puis ensuite, bien, toute la période très agitée. Mais encore à la période, ce qu'on appelle la période de Mingo, la républicaine, donc après 1911, il y avait encore des marchands lettrés qui ont survécu. Si vous voulez, l'apogée se termine en 1880, mais il y avait encore jusqu'à l'arrivée du communisme. En 1949, il y a eu encore des marchands lettrés confucéens dans cette région.
Alors, quand on se promène, c'est l'architecture qui marque, évidemment. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'architecture civile chinoise d'abord, pour bien comprendre les particularités de l'architecture du Huizhou ?
Alors, l'architecture civile chinoise, il y a beaucoup de choses, mais disons que, d'abord, il faut dire que si on prend l'ensemble de la Chine, entre une cour carrée à Pékin ou les maisons rondes du Fujian, il y a d'énormes différences. Hein. Mais il y a quand même un certain nombre de caractéristiques qui sont communes. Je ne suis pas une spécialiste, hein, mais je dirais que le fait que ce sont des maisons bâties autour d'une cour intérieure, par exemple, c'est une caractéristique. Le fait aussi, par exemple, que ce soit une architecture qui est davantage une architecture de piliers qu'une architecture de murs. Hein, les maisons sont d'abord des piliers dans lesquels ensuite on remplit les espaces avec, ça peut être du torchis, ensuite ce sera de la brique et puis de la pierre éventuellement. Voilà, donc j'essaie de réfléchir comme ça de mémoire aux caractéristiques de l'architecture chinoise. Moi je pense que c'est les deux grandes caractéristiques, si on doit, les plus importantes c'est ça, hein, c'est la cour intérieure et le fait que ce soit une architecture de piliers.
Et puis, de respecter les règles du feng shui.
Et puis, bien sûr, de respecter les règles du feng shui. Mais les règles du feng shui, c'est bien au-delà de l'architecture. Hein. Ce n'est pas uniquement un problème d'architecture. Mais bien sûr, les règles du feng shui sont essentielles. Alors, par rapport à ça, les maisons du Huizhou, quelles sont leurs caractéristiques? Les maisons du Huizhou, ce sont des maisons qui ont des murs cholés de blanc. Ce sont des maisons qui ont des toits qui sont en forme d'aile de cheval. Il faudrait que je retrouve les termes exacts parce que là, ça fait un petit moment que je n'ai pas retravaillé la question. Ce sont des maisons qui ont soit un, soit deux, parfois même jusqu'à trois étages. Mais en Chine, on compte le rez-de-chaussée, c'est le premier étage, hein, donc deux étages pour les Français. Ce sont des maisons qui sont beaucoup moins régulières, à la limite, qu'une cour carrée de Pékin, par exemple. Ce sont des maisons où il y a donc à la fois un peu plus de fantaisie possible. Alors, on retrouve effectivement, par exemple, cet élément de la cour au milieu, mais à la différence, cette cour peut être ce qu'on appelle un puits du ciel, c'est-à-dire extrêmement peu étendue. Ce sont des maisons qui étaient construites, il faut se le rappeler, par des marchands. Donc, des marchands qui d'une part ne pouvaient pas faire preuve d'ostentation, c'est pourquoi ce sont des maisons qui de l'extérieur sont plutôt comme des grandes murailles blanches, et il faut rentrer à l'intérieur pour avoir toutes les sculptures très fines, notamment les sculptures sur bois dont on reviendra je pense dessus, et ce sont des maisons aussi qui étaient souvent bâties en des espèces de petits palais d'une certaine façon de raffinement à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur elles étaient souvent peu ostentatoires, parce que c'était des marchands, donc ils n'avaient pas le droit à l'ostentation. Et ce sont les familles qui restaient sur place, donc les marchands lettrés qui partaient, tous les hommes qui partaient vendre parfois même à tous les quatre coins de la Chine, parfois même au-delà de la Chine. Les fils, les garçons quittaient dès l'âge de 14-15 ans pour suivre les traces de leur père. Donc ces maisons-là étaient essentiellement pour les femmes et les personnes âgées. Donc, les hommes aimaient à y rentrer une fois qu'ils prenaient leur retraite, selon le fameux précepte de la feuille qui retombe à la racine. On reparlera de la symbolique, c'est cette symbolique de la feuille qui retombe à la racine, on la retrouve partout dans ces maisons-là. Mais je pense qu'on parlera aussi de la symbolique, mais c'était des maisons pour les femmes. Donc, c'est très important parce que c'était une sorte de, peut-être on peut dire, une forme de prison pour les femmes, puisqu'elles étaient plus ou moins... je dirais surtout les jeunes, les très jeunes femmes, les jeunes vierges, enfin, étaient assez enfermées à l'intérieur. Les femmes mariées avaient plus le droit de sortir, mais c'était quand même destiné à protéger leur. C'était des maisons où on vivait beaucoup à l'intérieur.
Est-ce qu'elles étaient plus confortables que la moyenne des maisons chinoises ailleurs?
C'était des maisons bourgeoises, hein, c'était pas des maisons paysannes, hein. Je ne sais pas forcément beaucoup plus confortable que les maisons des aristocrates, des princes ou des maisons des marchands lettrés. Hein. C'était des maisons qui étaient assez confortables quand même, parce qu'elles étaient parfois, selon le niveau de richesse de ces marchands, elles pouvaient avoir même des systèmes de chauffage, elles pouvaient avoir des systèmes, des puits intérieurs pour permettre notamment aux personnes âgées de pouvoir aller chercher l'eau directement sur place. Oui, elles avaient des éléments de confort. En même temps, à nos yeux, bien sûr, elles ne sont pas si confortable que ça, et notamment ça pose un problème, on reviendra peut-être sur la conservation du patrimoine, c'est que un petit peu comme on a connu en France où les gens préféraient un pavillon phénix qu'une vieille ferme, c'est des maisons qui par exemple n'ont pas beaucoup de fenêtres à l'extérieur, hein, l'éclairage se fait par le haut et par les cours intérieures, et donc sont assez sombres, mais elles sont d'une beauté à couper le souffle. Je dirais que plus que des maisons confortables, ce sont des maisons belles.
On peut les voir, ces maisons, aujourd'hui.
Bah, on peut les voir là-bas, il faut se déplacer.
Mais dans quel village?
Ah, il y a beaucoup de villages. Donc, les deux villages qui sont les plus connus, c'est Sidi et Rongsun, parce qu'ils sont classés sur le patrimoine mondial UNESCO. Et je dirais que ce sont certainement les plus beaux villages. Et en même temps, ce sont ceux qui sont les plus visités par les touristes. Puisque un village comme Sidi, c'est 600 000 touristes par an maintenant. Donc, c'est beaucoup de monde. Mais c'est pas les Diang, c'est-à-dire que malgré tout, si on y va tôt le matin, si on y va plus tard le soir, quand les cars sont partis, il y a quand même encore beaucoup de charme. Hein. Et puis à part ça, il y en a des dizaines d'autres. Je peux pas tous vous les citer. Dans le livre, je parle d'une quinzaine de villages, mais au-delà de ça, il y en a bien d'autres. Hein. J'ai pas pu mettre tous les villages. Donc c'est ça, si vous avez envie de vous déplacer, si vous avez envie de visiter cette région qui vous permet... notamment à travers tout ce qui est la symbolique de ces sculptures sur bois, on y reviendra, de comprendre toute la culture Han de la majorité de l'ethnie majoritaire, 92% des Chinois, et de cette idéologie néo-confucéenne qui est en train de revivre un petit peu, d'être en tout cas que le pouvoir actuellement en place essaie de revivifier. Je crois que il y a vraiment de quoi faire des parcours. On peut y passer aisément une semaine en allant de village en village et depuis des villages. Je pense au Wuyuan, qui est une des, je dirais, des districts de la région, où vraiment là, on est en face de villages ruraux absolument pas effleurés par le tourisme, pratiquement pas. Hein. Donc vous pouvez vraiment faire des découvertes à l'écart des foules aussi. Hein.
Alors justement, vous parlez beaucoup de cette symbolique des sculptures dans les maisons. J'ai l'impression qu'elle est importante. Alors c'est le moment de l'aborder.
Alors voilà, la symbolique, c'est très important parce que la pensée chinoise est quand même souvent une pensée... Enfin, ça fonctionne bien par analogie. Donc, par exemple, la grenade, si vous mettez une grenade, c'est la fertilité. Si vous mettez si vous sculptez deux canards, mandarins en couple, c'est le couple. Si vous... pourquoi là ? Parce que la grenade, elle est grain et que les grains symbolisent... si vous voulez, il y a toute cette... Les maisons du Huizhou, il y avait énormément de sculptures sur bois, sur pierre et sur briques. Et ces sculptures représentent énormément de choses, notamment des scènes qui représentent des scènes qui sont tirées des grands textes chinois, de la mythologie chinoise, des héros chinois, des grands livres chinois, soit ce sont carrément des éléments décoratifs. Qui, par exemple, il y a une chose qui m'a toujours beaucoup amusée, c'est cette forme de fenêtre en bris de glace. C'est-à-dire que c'est difficile de vous parler des maisons en radio, parce qu'il faut vraiment, mon livre, c'est un livre de photos, il y a plus de 250 photos dans le livre. Je crois que ça, c'est quand même, le visuel est essentiel hein, pour parler des choses, mais je vais essayer de le faire avec ma voix. Vous avez donc imaginé, on dirait de la glace brisée, et c'était là pour rappeler parce que l'étude, hein, le fait d'étudier, c'est très important dans la mentalité néo-confucéenne, eh bien, il faut, même quand il fait très froid, il faut ne pas oublier d'étudier. Et donc ça, par exemple, c'est une symbolique de l'étude, le bris de glace. Donc, il y avait... En fait, c'est une pensée. On a un élément visuel, et cet élément visuel suscite toute une série d'images. Et donc, un peu comme, si vous voulez, dans le christianisme, vous avez la croix qui va symboliser la rédemption, enfin le fait que le Jésus-Christ est mort pour les hommes. Ben de même, si vous avez un bris de glace, vous aurez l'idée qu'il faut étudier. Si vous avez des canards mandarins, qu'il faut vivre en couple et être fidèle. Le répertoire est important. Il y a aussi des scènes édifiantes. J'ai en tête comme ça, il y en a plusieurs, mais en tête cette scène où on voit justement, on continue sur le thème de la glace, d'un garçon qui s'est dépouillé de ses vêtements et qui rampe sur la glace d'un petit étang devant, alors que sa mère malade est à l'intérieur de la maison. Et ça, c'est le symbole de la piété filiale, un élément aussi essentiel dans le néo-confucianisme. Et il est prêt à se dépouiller de ses vêtements et de ramper sur la glace pour aller chercher un poisson pour nourrir sa maman. Voilà, donc il y a toute une... Comme ça, une symbolique très importante et très riche. Au fond, ça évoque beaucoup, et c'est pour ça que c'est pour nous, c'est assez accessible, ça évoque les vitraux des églises, quand finalement les gens n'étaient pas capables de lire et que c'est à travers des images qu'ils apprenaient les textes sacrés. C'est quelque chose de cet ordre-là.
Sauf que là, c'est dans une maison privée.
Oui, alors, il faut savoir que dans les villages, il y a d'une part ce qu'on appelle bien sûr les résidences et les maisons privées, mais il y a aussi quand même quelque chose d'extrêmement beau et d'important, ce sont les temples de clans. Et là, les temples de clans ne sont pas des maisons privées, ce sont des lieux de rassemblement où on honorait les ancêtres. Il faut savoir que chaque village est en fait un village fondé par un grand ancêtre qui a fondé le clan. Les gens, encore aujourd'hui, ces villages qui ont entre 200, 400, 600 habitants, 1000 habitants, ce qui est tout petit à l'échelle chinoise, hein, mais voilà, souvent 80% des habitants ont le même nom. Bon, ils vont tous s'appeler justement Wang. Ça veut dire qu'ils ont tous ils partagent le même grand ancêtre. C'est très important parce que tout ça est consigné de façon très précise dans ce qu'on appelle des arbres généalogiques, qui sont très très bien consignés. Donc les gens connaissent très bien les rapports familiaux de clans qui existent. Et cette structure par le clan, qui se réunissait dans les grands temples de clans, dans les villages, il y avait aussi des temples de branches, mais enfin le grand temple de clan, c'était un peu l'équivalent d'une église dans le sens où c'était quand même un lieu relativement sacré, dans lequel il y avait au fond les grands portraits d'ancêtres avec et puis les noms des morts et masculins. Il y avait aussi des temples de femmes, mais c'était pas mêlé. Il y avait les temples des hommes et les temples des femmes. Mais ces lieux étaient à la fois tout à fait au fond, il y avait la salle du culte des ancêtres, mais il y avait en général plusieurs salles en enfilade, et il y avait aussi des salles simplement où avaient lieu les réjouissances, où avaient lieu éventuellement les jugements aussi, quand on jugeait, parce que finalement le groupe des pater familias, si je puis dire, hein, puisque c'est une situation très, on va dire, très patriarcale, hein, le confucianisme, le néo-confucianisme, eh bien, pouvait éventuellement, quand il y avait un différend, faire des jugements, pouvait aussi décider de qui on allait envoyer passer les examens impériaux. Hein. Donc c'était vraiment le lieu de la vie collective.
Quel était le rôle social de ces marchands lettrés ?
Alors, le rôle social, d'abord, c'était des marchands, donc c'était des gens qui, effectivement, faisaient du commerce, avaient des boutiques, de plus en plus sophistiqués, vendant des épices, vendant... Je vous dis, on peut... dans le livre, je cite des listes, je vais pas... Mais ça allait depuis, je sais pas, moi... donc, on a parlé du sel, mais il pouvait y avoir... je sais pas, moi, du jambon, tout ce qu'on pouvait imaginer dans une épicerie, si vous voulez. Mais il y avait aussi, bien sûr, et c'est très important, tout ce qui était autour aussi de l'artisanat, d'art, de l'encre, du papier... c'était des très grands fabricants d'encre parce qu'ils sont passés au fond, au départ ils faisaient du commerce, puis après ils ont aussi fait de l'artisanat et ils ont vendu ils étaient devenus les meilleurs fabricants de papier, les meilleurs fabricants d'encre de la Chine. Et puis de ça, ils sont devenus patrons des arts. C'est-à-dire qu'il y a eu comme ça un glissement avec évidemment l'enrichissement. Un certain nombre d'entre eux se sont consacrés à la culture, aux arts, à la protection des arts, se sont parfois devenus eux-mêmes des artistes. Ils ont développé, au-delà du rôle proprement commercial, un rôle de patron des arts, et puis aussi de banquier. Très important aussi, parce qu'en s'enrichissant, ils ont commencé à prêter de l'argent, notamment à l'empereur, ils ont financé l'armée, ils ont financé des tas de choses. En fait, ils ont eu le rôle de banquier aussi. Donc commerçant, patron des arts, grand collectionneur... esthète, banquier, au fond, ils avaient le nerf de la guerre, ils avaient l'argent.
Ce qui est quand même pas mal. Alors, on a parlé des mandarins tout à l'heure, je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce qu'est un mandarin. Et puis, il faut savoir aussi que beaucoup de mandarins étaient des enfants de marchands lettrés, puisqu'ils avaient gravi l'échelle sociale.
Voilà, alors le mandarin, c'est essentiellement, ça c'est vraiment une des grandes spécificités de l'histoire chinoise, c'est qu'il y avait justement des systèmes d'examens impériaux qui ont duré pratiquement jusqu'au début du XXe siècle. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'était basé sur l'étude des textes confucéens, et notamment sur la grande compilation de ces textes qui a été écrite par Zhu Si, qui est un néo-confucéen, je ne veux pas me tromper, mais je crois que c'est du XIe siècle, mais je n'ai pas vérifié avant de venir, donc je n'aurai pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est Zhu Si, Z-H-U-X-I. Et Zhu Si est originaire de la région, ce qui est intéressant, c'est de savoir du Wuyuan. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que c'est une région qui protège aussi beaucoup la culture. Il y avait un côté démocratique dans tout ça, puisque n'importe qui, à la limite un fils de paysan, pouvait passer les examens impériaux, il suffisait qu'il soit très brillant. Donc, on passait les examens impériaux à différents niveaux. Et plus on était brillant et plus on arrivait jusqu'à obtenir finalement le rang les meilleurs résultats, et on rentrait dans ce qu'on pouvait appeler un peu l'ENA chinois, si vous voulez. Et là, vous faisiez une carrière nationale sur l'ensemble de la Chine. et vous mettiez au service de l'empereur. Donc, si vous voulez, il est clair que même si, c'était des, même si tout, tout enfant de paysan pouvait passer, ce qui est sûr, c'est que les marchands lettrés ont toujours privilégié l'éducation. Ils ont donc beaucoup, y compris sponsorisé, des enfants intelligents qui pouvaient être de parents pauvres. Parce que comme tout système confucéen, en fait, il y avait... c'est basé sur le droit d'aînesse aussi, c'est-à-dire qu'il y avait le chef de clan, il y avait et il y avait les branches cadettes, les branches cousines, les branches moins prestigieuses, mais qui pouvaient avoir des enfants brillants qui étudiaient avec les enfants du chef de clan, et donc c'était un formidable moteur d'ascension sociale à travers les études. Donc le mandarin, c'est quelqu'un qui, au fond, c'est un fonctionnaire. Le mandarin, c'est un fonctionnaire qui a réussi l'examen.
Et la région du Huizhou en a fourni beaucoup.
Beaucoup, oui. Statistiquement, c'est eu des raisons. Alors, il y a, quand vous vous baladez, vous voyez encore énormément ce qu'on appelle des arcs de triomphe, des espèces d'arcs de triomphe qui sont des choses qui étaient attribuées à des gens qui avaient réussi justement des examens impériaux ou commis une action extraordinaire. C'est un peu leur légion d'honneur, si on peut dire. Beaucoup ont été détruits pendant la révolution culturelle. Dans un village comme Sidi, je crois qu'il y en avait 19, il n'en reste qu'un, qui avait été laissé d'ailleurs de façon amusante, là, à titre d'exemple, parce qu'on voulait montrer ce qui était mal. Donc on ne l'a pas fait sauter, heureusement, il est resté. Et donc ces arcs de triomphe symbolisent justement cette méritocratie. C'est une méritocratie, quoi, quelque part. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on étudie cette histoire longue, on comprend bien comment fonctionne, y compris maintenant, la Chine. C'est-à-dire ce mélange à la fois entre l'argent, l'État, l'État national, l'État régional. Et donc, ces racines sont là, on les lit dans la pierre dès cette époque.
Alors justement, on a évoqué la révolution culturelle, ça tombe bien, parce que je voulais vous demander comment cette région a traversé les événements tragiques du XXe siècle. Et en termes de destruction de patrimoine, évidemment.
Alors, beaucoup de régions, elle a été pas mal détruite. Et quelquefois, ça fait penser à la Révolution française en France. Parce qu'il y a un point commun qui m'a beaucoup troublée, c'est que beaucoup de sculptures ont été étêtées. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'ont pas été entièrement détruites. On a retiré les visages des sculptures. Il faut s'imaginer que dans ces maisons, il y a des milliers et des milliers de bas-reliefs, notamment en bois, mais aussi en briques, qui sont de toute beauté. Certains sont des œuvres qui valent certaines sculptures de grandes cathédrales. C'est vraiment très, très beau. Et j'en montre quelques exemples, mais il y en a, moi, c'est quelques exemples parmi des centaines et des centaines d'autres. Or là, assez systématiquement, on a perdu les visages. Quand on a gardé les visages grâce à des actes de bravoure, de gens qui ont eu le courage de s'opposer à ces destructions, souvent par la ruse, en mettant de la boue et des affiches, en cachant derrière des meubles, etc. On voit à quel point les visages sont magnifiques, les sourires de ces personnages, les scènes sont magnifiques. Et on se prend à regretter qu'il y en ait eu autant de destructions. Il y a eu, bien sûr, je vous ai cité des arcs de triomphe qui ont été détruits, des temples qui ont été détruits. Il y avait toute cette idéologie de cette époque aussi, mais qui date même d'avant la révolution culturelle, toute la période quand même communiste, où on considérait qu'il fallait d'abord produire. Donc on défaisait pierre par pierre des temples et on demandait aux paysans de le faire pour faire des barrages, des choses comme ça. Donc on retrouve des pierres dans des édifices un peu industriels, enfin des choses comme ça. Donc il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de destructions. Et ce qui est étonnant, c'est que malgré toutes ces destructions, il reste encore autant de belles choses.
Ce qui prouve qu'il y en avait énormément. Mais la notion de patrimoine en Chine est très différente de celle que nous connaissons ici.
Si vous voulez, c'est toujours pareil en Chine. Moi qui vis maintenant en Chine depuis 5 ans, à Pékin, et qui par ailleurs, bon, dirige un magazine, donc en tant que journaliste, je ne me suis pas spécialisée sur le patrimoine. Moi, j'ai fait ça un peu par hasard et par admiration, plaisir et amitié. Je dirais que il y a la loi et il y a la façon dont la loi est appliquée. Je dirais qu'en termes de loi, aujourd'hui, la Chine s'est dotée de vraies lois de protection du patrimoine. Elle s'en est dotée dès les années 80 et ensuite elle a réformé cette loi en 2002. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de loi. Simplement, ensuite, de façon précise, moi j'observais vraiment les choses dans un coin très local. Je vous dirais que ce n'est pas si simple parce que d'abord, les gens qui sont chargés d'appliquer cette loi sont souvent débordés, mal formés, pas préparés. Et d'autre part, ça demande beaucoup d'études, ça demande beaucoup d'apprentissage et on les bombarde souvent protecteurs des arts et des choses alors qu'ils n'ont pas de formation réelle. Et puis ensuite, il s'agit d'avoir les moyens financiers. Alors la Chine s'enrichit et donc ce problème-là a tendance, va peut-être progressivement disparaître. Encore aujourd'hui, on laisse souvent des paysans pauvres se débrouiller pour protéger. Alors, ils peuvent commencer à avoir des petites subventions, mais quand même assez ridicules. Et comme je vous le disais, les gens ont du mal à savoir aussi ce qu'il faut faire. Il y a eu quand même pas mal de... une rupture dans la grande chaîne de la transmission au moment justement de la révolution culturelle, ce qui fait que les gens ne savent pas toujours, n'ont pas toujours été bien formés. Alors, ceci étant dit, puis quand même la Chine reste pauvre, hein, le revenu moyen dans ces régions, c'est plutôt 400 euros par an, hein, c'est pas beaucoup, hein, donc les gens, c'est pas une économie très monétaire, hein, y a beaucoup de paysans, hein. Dans ces villages. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, ces villages, depuis quelques années, à cause de la manne touristique, signent des accords avec des sociétés de protection, de développement touristique. Alors là, il y a un autre danger. Soit c'est le manque d'argent ou le manque de formation. Puis après, c'est de vouloir faire des choses un peu trop belles, trop léchées, un peu pédagogiques ou je sais pas quoi. Et moi, en 3 ans, j'ai déjà vu les ravages que ça peut faire de faire de la pseudo-protection sans beaucoup de bon goût. Donc c'est le danger vient à la fois de la pauvreté et des choses qui s'écroulent, et puis de l'ignorance d'une certaine façon, mais aussi de vouloir en faire trop, et pas toujours en préservant l'authenticité ou la vérité. Et donc moi j'ai vu dans un village comme Chengkan, par exemple, qui est très beau, la première fois que je l'avais vu, j'avais été totalement subjuguée. Là, ils ont fait avoir un musée du Feng Shui en parlant de ça, qui est quand même, par certains côtés, je dois l'avouer, d'une vulgarité absolue, quoi. C'est-à-dire, le problème... Il y a donc une course de vitesse par rapport à mes amis avec qui vraiment je me suis engagée parce que j'ai fait ce livre avec plein d'amis chinois qui m'ont beaucoup soutenue et qui sont sur le terrain, le photographe Jianping, des gens comme Xiao Guang et Han Yu, bien sûr Wang Yan, etc. Je pourrais les citer longuement. Ces gens-là, si vous voulez, qui ont acheté des monuments historiques, documentaristes, poètes, qui rénovent, aubergistes, etc. Tous ces gens-là ont le sens de la beauté, ont travaillé, ont savent et ont ce qu'on dit en chinois le yangguang, c'est-à-dire le regard profond pour juger les choses. Mais c'est une course de vitesse entre ce qu'ils font eux pour rénover leur région et puis ce qui peut aussi être mal fait par des nouveaux riches, par des gens qui n'ont pas beaucoup de sens. Et à côté de ça, il y a donc les gens qui sont en charge de la région, les autorités locales, qui, selon leurs aptitudes personnelles, leur engagement personnel, parfois avec beaucoup de bonne volonté, essayent de faire des choses. Donc je dirais que le bilan est mitigé, qu'il n'y a pas encore, comme chez nous, si vous voulez, après plus d'un siècle de protection du patrimoine, un vrai savoir-faire. On n'en est pas là encore en Chine.
Et puis surtout, il y a un tourisme de masse qui se développe et là est le vrai danger. Alors, il y a deux sites du Huizhou qui sont classés patrimoine mondial par l'UNESCO. Est-ce que c'est important là-bas d'avoir ce label ?
Ah, évidemment, c'est très important. C'est d'abord, ça a été un élément quand même de protection quelque part de ces deux sites parce que il faut dire qu'avant, vraiment, il y avait des destructions de très belles maisons, il y avait n'importe quoi. Là, il y a quand même des éléments de raison. Mais si on prend l'exemple justement de Sidi Rongsun, le grand danger, c'est que c'est devenu des parcs à des zoos humains presque, puisqu'on c'est très beau, mais on paye un ticket de 80 yuan, de 8 euros pour entrer à Sidi. Et puis les gens, ils se retrouvent, ils perdent un peu la vie qu'ils avaient de village, leur côté paysan, et puis ils se mettent à faire des espèces. Ça devient un peu un Mont-Saint-Michel, si vous voulez. Alors, le mal n'est pas trop grand parce qu'il suffirait que, avec le temps, on retire les babioles qui sont vendues dans ces boutiques. Et je dirais que. Même à Sidi, très touristique, il y a encore. Moi, une de mes amies, Hanyu, qui a une auberge encore là-bas, qui est très belle. Et j'y suis allée il n'y a pas très longtemps. Et le matin, je me réveille tôt, je me balade dans les ruelles du village. Il y a encore les gens qui prennent leur petit déjeuner devant la porte. Il y a encore des gosses qui vont à l'école. Il y a encore beaucoup d'authenticité. Mais il y a aussi ces quarts de touristes qui arrivent à 9-10 heures du matin et qui déambulent et qui achètent des choses. Mais par rapport à un coin comme Lijiang, dans Yunnan, on est encore très loin de ça. Donc je veux dire qu'il y a un danger dans le tourisme de masse. Mais s'il y a un endroit qui peut résister, c'est celui-là. Je suis optimiste parce que je pense qu'il y a tellement de villages. Et puis il y a des choses qui sont en train de se faire à Lutsun. Il y a un tourisme d'élite qui est en train de se développer. Il y a un hôtel à Man qui est en train de se faire. Enfin, Il y aura du tourisme, ça va devenir touristique, mais il ne faut pas se leurrer. Il faut bien que les gens vivent de quelque chose. Alors, si soit c'est... On ne peut pas mettre les gens sous cloche. Mais il y a encore dans Bishan, où mon amie a un deuxième hôtel magnifique qu'elle a fait, qui est très beau, dans une vieille maison restaurée avec énormément de goût et de finesse, et avec un sens de l'art et de la culture, etc., qui est à l'égal des anciens marchands. Et bien, je dirais que si vous êtes en haut, sur la terrasse, et vous regardez, il y a encore les paysans qui travaillent les champs. Enfin, c'est encore assez vrai. Puis, il y a par exemple un endroit comme Mukang, où il y a les grandes forêts de roseaux qu'on voit dans le film Tigre et Dragon. C'est là où ça a été tourné. Il y a aussi une chose dans ces coins-là, c'est que comme ces villages sont encore très beaux, il y a eu beaucoup de tournages de films. Et donc, oui, il y a quelque chose d'un décor. Mais c'est pas qu'un décor, il y a encore des gens qui y vivent. Et le tourisme et tout ce qui tourne autour du tourisme intelligent et de qualité fait partie du développement de la région. On ne peut pas arrêter ce développement-là. Mais je dirais que ce n'est pas la région la plus menacée par le tourisme de masse de Chine.
Ce serait laquelle ?
Ben, je vois Lijiang. Lijiang, c'est une catastrophe. C'est très beau, mais c'est devenu horrible. Moi, je déteste Lijiang parce que c'est beau, mais il y a boutique derrière boutique. Donc ça, c'est dans le... C'est pas ça, hein. Le rez-de-chaussée, c'est pas ça.
Le côté Disneyland est dangereux.
Oui, mais justement, le côté est très, très souvent présent en Chine. Et je dirais que ce n'est pas le cas du tout au Huizhou. Ce n'est pas Disneyland. Parfois, ça serre le cœur parce que je trouve qu'il y a quelque chose de paysan pauvre qui mettent des babioles dans ces magnifiques endroits, ces salons d'honneur sublimes de ces maisons. Et leurs babioles cachent le salon d'honneur. Mais ils font ça parce qu'il faut bien qu'ils touchent qu'un peu d'argent. Ils sont payés une certaine somme pour ouvrir leur maison. Donc vous rentrez chez eux comme dans un moulin. Vous n'avez même pas besoin de dire bonjour. Enfin, je veux dire, s'il y a quelque chose de terrible là. Donc il y a des choses poignantes, mais ce n'est pas Disneyland, non.
Bon, encore de beaux moments de découverte, donc, et de découverte, bien sûr, avec ce livre d'Anne Garrigue, De pierre et d'encre, Chine au pays des marchands lettrés, aux éditions Piquier. Anne Garrigue, merci.